vous écoutez CMFM Radio et Eya Vatriné.
Aujourd'hui j'ai une assistante. Elle s'appelle Eya Vatriné, elle est en CM2 à l'école Maurice Boyer de Pennes et elle est avec nous aujourd'hui dans le mag et notamment elle m'assiste pour la réalisation de cette émission qui est un peu particulière. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je recevais déjà l'école Maurice Boyer de Pennes ici en studio pour nous parler et nous présenter la journée nature qui s'est tenue dans le village de Pennes. C'était le samedi 12 juin dernier et à cette occasion, les élèves de cette école se sont plus que mobilisés hein, pour participer aux différents rendez-vous qui étaient proposés. Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur cette journée nature avec eux. Ils sont tous dans le studio de CFM Radio, ça fait du monde. Et je leur dis bonjour et en retour, j'attends un bonjour collégial. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ah, c'est chouette. Et notamment autour du plateau du studio de CFM Radio, Nino Pignon-Lemoyle qui est en CM1. Nino, bonjour.
Bonjour.
Il y a également Mona Romond qui est en CM1 aussi. Mona, bonjour.
Bonjour.
Et puis Paul Cotte en CM2. Bonjour Paul.
Bonjour.
Il y a également Flore Lépine qui est en CM1. Bonjour Flore.
Bonjour.
Ça va tout le monde?
Oui.
Oh, ouais, tout le monde à la pêche. On voit qu'il fait beau et que c'est bientôt les vacances scolaires, mais toujours est-il que vous avez passé une chouette journée, j'imagine, le 12 juin dernier, cette journée nature qui était organisée à Penn par des naturalistes, hein, non seulement de Penn, mais aussi du Gaillacois qui était présent. L'idée, c'était de mettre en valeur la biodiversité du périmètre Natura 2000 pour lequel Penn est concerné. Flore, on va commencer par toi. Tu vas commencer par nous raconter un peu comment s'est passé la matinée du samedi 12 juin, le rendez-vous c'était à 9h à la salle des fêtes, si je ne raconte pas de bêtises. Alors cette matinée, Flore, Lépine.
Le matin, Joe, Erwan, Pascal et Martine ont proposé une balade naturaliste. Mm-hmm. Joe a d'abord présenté dans la salle des fêtes comment les falaises se sont formées. Il a utilisé une maquette et des schémas. Ensuite, la balade a eu lieu sous le village. Des oiseaux ont été observés comme un héron.
Et parmi les oiseaux, il y a ceux qu'on appelle les habitants. Et la dernière fois, je me suis dit, tiens, ils vont parler des habitants du village ou des habitants de la falaise. Et c'est votre instituteur, Christophe Albaret, qui m'a corrigé et qui m'a dit, ah ben non, les habitants, c'est des noms d'oiseaux. Donc ça, c'était en matinée, il y avait ces balades-là. Et puis, sur le temps de midi, vous avez partagé le repas avec le public qui était là. Mona, comment s'est passé ce repas du midi?
Le midi, chacun a pu manger son pique-nique près de la salle des fêtes. L'après-midi, la chaleur est revenue.
Oh, c'était bien cette chaleur-là. Et, ouais. Et toi, tu as mangé quoi comme pique-nique?
Moi, j'ai mangé à la maison.
Ah, tu as mangé à la maison. Ah, ben oui, tu habites juste à côté. Et puis, avec toi, Nino, j'aimerais que l'on parle un peu du cycle de l'eau, parce que je disais tout à l'heure que les élèves de l'école Maurice Boyer ont plus que participé hein, à cette journée nature. Vous aviez même en charge un peu l'animation de ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux nous raconter déjà sur ce qui s'est passé l'après-midi du 12 juin et votre intervention? Il paraît que toi, tu as d'ailleurs parlé dans la salle des fêtes à tout le public qui était présent.
Oui. Alors, au départ, dans la salle des fêtes, Paul et moi avons parlé. Moi, j'ai parlé du cycle de l'eau naturel.
Mmh.
Paul, du puisage à miel.
Ok.
Et puis après, on est parti, on est allé au bassin qui est en haut de Penn.
Oui, parle devant ton micro, oui. Au bassin qui est en haut de Penn.
Et après, on est redescendu à la station. On est descendu à la station d'épuration.
Alors sur le cycle de l'eau, qu'est-ce que tu as expliqué au public qui était là?
Alors, j'ai expliqué que d'abord l'eau, elle tombait sous forme de pluie.
Oui.
Après, ça s'infiltrait dans les roches, dans le sol et. Et tout ça, et puis après, ça a coulé dans des rivières, dans des lacs, des trucs comme ça.
Mmh.
Après, ça s'évapore, ou alors ça va directement à la mer, et après, ça s'évapore dans la mer. Puis après, ça se condense, et donc, ça redevient nuage, l'eau devient nuage, et donc après, il repleut, et après, ça continue...
Et le cycle se poursuit. Je sais pas si tu as déjà entendu cette fameuse phrase qui dit rien ne se perd, tout se transforme. C'est un peu le cas de l'eau. Depuis la naissance de la Terre, il y a la même quantité d'eau sur Terre, en fait, et ça fait que tourner. Ça fait que tourner comme ça.
C'est comme l'énergie.
C'est comme l'énergie, en effet. Paul Cotte, élève en classe de CM2, dans l'après-midi, vous avez fait différentes visites, notamment sur toujours ce thème de l'eau et plus particulièrement sur le traitement de l'eau. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez fait dans l'après-midi du 12 juin ?
Eh ben, d'abord, comme a dit Nino, ben, on était à la salle des fêtes, où j'ai expliqué et lui a expliqué d'où venait l'eau un peu. Quelque sorte. Et puis après, bah, on est allé au bassin où on a pu voir d'où vient l'eau, enfin comment l'eau est filtrée, là où elle vient de Amiel. L'eau, elle est prise à Amiel, puis après, elle est filtrée.
Okay.
Puis après, on est allé au ruisseau pour voir les libellules. Enfin, il y a eu quelqu'un qui s'appelait François, je crois, c'était
François Léger, ça doit
François
être.
François Léger.
Oui, oui, animateur de Natura 2000, oui.
Voilà, qui a expliqué, qui a montré les libellules. Et puis après, on est allé à la station d'épuration pour montrer comment l'eau sale était filtrée.
Oui.
Pour après être jetée. Du coup, j'ai expliqué les deux arrivées d'eau. Puis après, Nino a expliqué d'autres choses. Et puis d'autres ont expliqué d'autres choses. Puis après, on est allé à l'Aveyron pour continuer à regarder les libellules.
Ah oui. Alors, ces libellules-là, elles ont quelque chose en particulier. Les libellules qu'on trouve autour de Penne, là ?
Ben, moi, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé, mais après, voilà, enfin, moi, j'ai pas trop regardé.
Bon, alors, je vais refaire un tour de table pour savoir un peu ce que vous avez retenu, chacun d'entre vous, de cette journée. Flore Lépine, qu'est-ce que tu as retenu de cette journée nature, toi ? Qu'est-ce qui t'a plu, déplu ? Qu'est-ce que tu en retires ?
Bah, ce qui m'a pas plu, c'est qu'en fait... On avait oublié un peu de prendre de l'eau, du coup on était mort de soif.
Ah ouais, en plus il a fait chaud.
Ouais.
Mais bon, vous avez parlé du cycle de l'eau et vous avez pu vous abreuver par la suite. Et qu'est-ce qui t'a plu ?
Bah, le reste.
Le reste, tout le reste. Bon, ben impeccable. Mona, qu'est-ce qui t'a plu de cette journée nature à peine ?
Je sais pas.
Réfléchis. Une visite, une balade, un animal, quelque chose en particulier, non ? Attends, pendant que tu réfléchis, je vais demander à Nino. Lui, qu'est-ce qu'il a retenu de cette journée nature ?
Moi, ce qui m'a déplu, c'est que...
Plus ? Je trouve... Pas obligé de me dire ce qui t'a déplu. Plus aussi.
Ouais, bah plus... tout, à part... qu'il y avait pas beaucoup de monde, il y avait surtout des parents et quelques personnes qui étaient venues le matin pour parler d'autres choses. Et ce qui m'a déplu aussi, c'est quand je suis tombé dans les ronces.
Ah, ça c'est moins drôle ça. Et ça va mieux ?
Oh oui.
Ok. Paul Cotte, qu'est-ce que tu as retenu de cette journée nature de peine ?
Bah, qu'on a appris plein de choses comme... Oui, on a appris plein de choses.
Sur le cycle de l'eau, notamment, oui. Et c'est en lien un peu avec ce que vous étudiez à l'école aussi.
Oui, on a complété ce qu'on avait appris à l'école.
Ouais, ouais. Et puis, il y a toujours cet avantage, hein, lorsqu'on passe de la théorie à la pratique, ça vous permet de mieux comprendre peut-être et de mieux saisir ce que vous avez fait. Alors, elle est mon assistante réalisatrice. Normalement, les assistants réalisateurs dans des émissions radio ne parlent pas. Mais là, je fais une exception à Eya Vatriné pour qu'elle nous raconte aussi ce qui lui a plu. Durant cette journée nature du 12 juin. Tu veux bien nous raconter, Eya ?
Moi, j'étais pas là.
Ah oui, tu étais où ?
Moi, j'étais chez moi, puisque du coup, je devais travailler au tissu.
Ok.
Voilà, du coup, j'ai pas pu être là.
Bon, mais les copains t'ont quand même raconté le lundi d'après comment ça s'est passé.
Oui.
Ok. Très bien. Bah écoutez, les enfants, je vous remercie beaucoup d'être venus. Durant cette journée nature, j'avais prêté un enregistreur à votre instituteur, Monsieur Christophe Albaret, qui vient de me le rapporter là. Je vais l'écouter, je vais essayer de voir ce que on peut faire comme reportage à partir des sons que vous avez enregistrés au cours de cette journée nature et on fera une diffusion ultérieure sur les ondes de CFM Radio. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être venus me faire ce que l'on appelle le débrief, hein, le retour un peu de votre expérience de cette journée nature. Et puis par avance, je vous souhaite de bonnes vacances scolaires, même si on en est encore un peu loin, mais déjà je prends de l'avance pour vous souhaiter de passer un superbe été. Merci encore pour cette initiative que vous avez eue. Pour toi, Nino, qui regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde, il faut se dire que c'était peut-être la première édition et que les années futures, si ça se reconduit, il y aura peut-être un peu plus de monde d'année en année. Merci beaucoup à tous. Je dis au revoir à toute l'école primaire Maurice Boyer et je remercie votre instituteur en particulier, monsieur Christophe Albared. Merci tout le monde et à bientôt. Au revoir.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Le Mac du Tarn se poursuit en musique dans l'immédiat avec Michel Gurevitch et ensuite Jean-Louis Ferrand, le président de la Société des Amis du Vieux-Corde qui administre notamment le musée Charles Portal à Cordes-sur-Ciel, nous parlera un peu plus particulièrement des sarcophages qui sont exposés dans ce musée et qui témoignent de l'activité qu'il y avait sur le pays cordais au temps des Mérovingiens, hein, c'était en l'an 400, l'an 500 à peu près. La suite du Mag, en musique maintenant, c'est Kiss in Taksim Square, Michel Gurevitch. We'll be right back. 6 in Taksim Square, Michel Gurevitch dans le Mag du Tarn sur CFM Radio.
CFM Cordes, le Mag.
Aujourd'hui, je vous embarque avec moi au musée Charles Portal de Cordes-sur-Ciel, un musée de France qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de Cordes-sur-Ciel, mais de ses alentours aussi. Et quand je parle de l'histoire de Cordes-sur-Ciel, c'est même l'histoire de Cordes-sur-Ciel avant que Cordes-sur-Ciel ne soit Cordes-sur-Ciel. Une cité qui a été fondée il y a pratiquement 800 ans maintenant, c'était en novembre 1222. Mais avant cela, des choses se sont passées aussi à Cordes-sur-Ciel. Je suis en compagnie de Jean-Louis Ferrand, le président de la Société des Amis du Vieux Cordes. Jean-Louis Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais que nous axions aujourd'hui notre intéressement à l'histoire du pays sur une période dont on ne parle pas souvent, c'est la période mérovingienne qui a permis, dont on atteste en tout cas des différents époques et passages par des fouilles archéologiques qui ont permis de mettre en évidence des pièces, on va dire, uniques, presque au monde.
Tout à fait. Alors, bon, pour situer un petit peu, il faut savoir que l'axe Rodez-Toulouse, Toulouse ayant été à l'époque des Visigoths jusqu'au début du 5e siècle, la capitale des Visigoths, il se trouve que lorsque, en 507, Clovis détruit complètement la culture visigothique, il va... prétexter la religion pour cela, il va prétexter la bonne religion romaine, chrétienne, et alors que les autres aussi, les Visigoths étaient des chrétiens, et Vendrac va continuer à rester un centre économique important. C'est ce que nous pouvons voir à travers les fouilles de l'abbé Bessou, qui a fait un travail considérable sur la butte qui était en fait un monticule de terre dû au cimetière mérovingien, qu'il a trouvé avec un espace qui est aussi petit que j'allais dire le musée, et il y a plus de 200 sarcophages qui ont été exhumés.
Ce n'est pas n'importe quel sarcophage, il ne s'agit pas des sarcophages des pharaons, mais là on est sur des sarcophages en pierre et qui sont à trous, et ça c'est une particularité vraiment de cette époque-là.
Parmi ces sarcophages, il y en est un qui est remarquable en ce sens que, appuyé contre un mur, on découvre un sarcophage qu'on pensait à l'origine identique aux autres, et lorsqu'on a évacué la terre qui était tout autour, on s'est aperçu qu'en fait c'était un sarcophage double, et ce sarcophage double d'une excellente qualité de taille a été un petit peu sacrifié pour élaborer le mur, reconstruire le mur lorsqu'il y a eu agrandissement du bâtiment, mais il possède 14 trous de communication entre les deux parois du sarcophage. Alors, la raison pour laquelle il y a ces 14 trous est assez vague. On ne connaît pas exactement le pourquoi de ces communications. On peut présumer qu'il s'agisse de la communication des différentes âmes des personnes qui étaient en couple. On en connaît des sarcophages doubles simples, on en connaît avec 2 ou 3 trous, mais pas avec 14 trous.
Si Jean-Louis, pour tous ces éclaircissements, on comprend un peu mieux le pays en discutant avec toi, on le comprend encore mieux lorsqu'on vient visiter le musée Charles Portal qui nous permet d'en apprendre plus sur l'histoire du pays depuis énormément de siècles, même avant la fondation de Cordes-sur-Ciel où se trouve ce musée Charles Portal. Merci Jean-Louis Ferrand.
Merci à vous.
CFM. CFM Radio.
Notez que le samedi 3 juillet prochain, le musée Charles Portal de Cordes-sur-Ciel participe à la nuit des musées avec tout un tas d'animations qui sont prévues et des visites en nocturne aussi du musée en lien avec la saison des musées départementaux du Tarn qui est dédiée à l'alimentation. Il y aura donc pas mal de choses à déguster au musée Charles Portal de Cordes-sur-Ciel. Le plaisir des yeux mais aussi des papilles. On écoute un peu de musique avant de passer au coup de projecteur de CFM aujourd'hui, qui est consacré à la commune de Los-Angoël dans le Pas-de-Calais, dont le maire Jean-François Caron était à Albi, à l'école des mines hier, invité par le pôle territorial de l'Albigeois pour parler des villes en transition, car cette petite commune de 7000 habitants est le modèle aujourd'hui en France des villes qui ont entamé avec brio leur transition écologique.
« j'étais sage comme un orage, ni virtuel, ni imbécile. Je sais bien, ce n'est plus de mon âge. Comme tu vois, j'ai l'instinct fragile à penser à tout ça. J'ai une larme qui coule, c'est l'instant qui veut ça. Nostalgique du cool. Automate traumatisé, je me détraque trop hantisé. Je me lève à l'eau glaciale, je déteste ce confort social. On grandit bien trop vite sur cette planète plastique où la vie semble pratique. Mais aujourd'hui je saisis ma chance.
CFM, coup de projecteur.
La commune de Los Angoels dans le Pas-de-Calais compte près de 7000 habitants et durant des dizaines d'années, elle a vécu de l'exploitation des mines de charbon. Depuis une vingtaine d'années maintenant, la transition écologique est au cœur des dossiers municipaux, avec parfois la concertation et même le concours des habitants, ce que le maire Jean-François Caron appelle le 50-50.
Concrètement, ça veut dire il faut que ce soit un groupe d'habitants, c'est pas un habitant isolé, il faut qu'il y ait un petit collectif, pas forcément une association, qui pose une proposition. Par exemple, ça a été des jeunes pour refaire le vestiaire, hanter la réfection des chemins agricoles avec les agriculteurs, c'est du fleurissement dans des quartiers, ou encore la construction d'un petit clubhouse dans un endroit où il y avait de la place. Et je donne quelques exemples là pour montrer que c'est du quotidien. Et donc, à partir du projet de ces habitants, on se réunit, on pose tout sur la table, donc ça prend plusieurs séances de construction. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens de comprendre qu'il y a des enjeux financiers, qu'il y a des enjeux de règlement, de normes. Ça permet aux gens de se former, si l'on peut dire, à l'action publique, quoi. Donc c'est intéressant parce que ça transforme les habitants de rentrer dans l'action. Et donc, c'est 50-50, quand on a élaboré à la fin le projet, on signe une charte. Et il y a ce que va faire la ville et ce que vont faire les habitants. Les habitants sont associés à la construction d'espaces publics. Et donc, c'est un peu leur affaire. Et du coup, il y a toute une série de pratiques qui sont plus vertueuses, finalement.
Et c'est une cinquantaine de projets proposés et portés par les habitants qui ont ainsi pu être menés à bout. Jean-François Caron, le maire de Los Angoels, était hier à Albi pour expliquer les piliers de cette transition écologique et les effets recensés dans cette ville du Nord-Pas-de-Calais.
CFM. Coup de projecteur.
Et la semaine prochaine sur CFM Radio, je vous proposerai l'interview en intégrale de Jean-François Caron, le maire de Los Angoels, avec qui je me suis entretenu à propos des villes en transition écologique. C'est édifiant et très intéressant. Les infos arrivent sur CFM Radio.